France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'on commence par cette évacuation en urgence du camp de migrants de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Plusieurs feux se sont déclarés tôt ce matin. Les pompiers sont à pied d'œuvre, mais déjà des centaines de migrants fuient à pied ce camp. Il héberge actuellement près de 12 700 demandeurs d'asile. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca suspend l'essai clinique de son vaccin contre le Covid-19. Une pause décidée après l'apparition d'effets secondaires indésirables graves chez l'un des participants. Un comité indépendant doit réaliser une évaluation de sécurité. Contre le nouveau coronavirus, le Royaume-Uni muscle son arsenal de mesures. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont ainsi interdits à partir de la semaine prochaine en extérieur comme à l'intérieur. La limite est actuellement fixée à 30 personnes au Royaume-Uni. Le nombre de morts dans le pays est le plus élevé d'Europe avec plus de 41 500 décès liés au coronavirus. En France, le Covid-19 a fait plus de 30 000 morts. Face à une légère hausse des cas de contamination ces derniers jours, la Direction générale de la Santé appelle à un renforcement de l'application des gestes barrières. Et dans ce contexte, sachez que le Premier ministre est contraint à l'isolement après avoir côtoyé un malade. Le test de Jean Castex réalisé hier est revenu négatif, mais par précaution, il reste confiné à Matignon jusqu'à son prochain test dans 7 jours. Le Conseil des ministres et le séminaire de rentrée prévu aujourd'hui se déroulent donc en visioconférence. Une telle mesure de précaution sanitaire n'avait pas été décidée depuis la fin du confinement au printemps dernier. Et puis un procès pourrait bien s'ouvrir un jour contre Édouard Philippe, ancien Premier ministre, contre Agnès Buzyn et Olivier Véran devant la Cour de justice de la République. 9 plaintes visent la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Elles ont été retenues dans ce dossier. La Chambre de l'instruction débute son travail aujourd'hui et entend notamment 3 médecins du collectif C19. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30, c'est-à-dire dans une demi-heure.
Sur France Culture, la philosophie sème la zizanie. Le torchon brûle, Adèle.
On va se poser 4 questions pour se fâcher entre amis. Et oui, le paradoxe de l'œuf et de la poule, ce sera lundi. Collabo ou résistant, qu'aurais-je fait pendant la Seconde Guerre mondiale? Mardi, faut-il dire à son meilleur ami que sa femme le trompe à la veille de son mariage? Mercredi. Et enfin jeudi, faut-il séparer l'homme de l'œuvre?
Les chemins de la philosophie par Adèle Vendrette, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
René prépare le barbecue. Il retrouve bientôt toute sa famille. Mais pour se régaler et savourer le bonheur d'être ensemble, tous vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures barrières. Ensemble, restons prudents.
Besoin d'aide ? 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Avant le réveil culturel de Toufik Hakem, nous retrouvons sur France Culture Bruno David et son monde vivant. Il se penche sur l'oie ce matin.
Je suis adepte de la marche avec une allure un peu hautaine. Doté d'un solide sens de l'orientation, je pratique les voyages au long cours. Je peux être parfois agressive et je sais monter la garde avec vigilance. Le respect du leader et de l'ordre géométrique m'anime. Bien que certaines de ces caractéristiques puissent y faire songer, je ne suis ni militaire, ni aviateur, ni marin. Je suis, en serre, autrement dit, l'oie cendrée. Une espèce largement domestiquée depuis la plus haute antiquité égyptienne, il y a près de 5000 ans, depuis mon succès auprès des humains, ne s'est jamais démenti. Ce gros volatile de la famille des canards et autres cygnes a longtemps été un habitant ordinaire de nos villages, apprécié pour ses œufs, sa chair ou son duvet. Sa démarche un peu pataude a pu inspirer certains qui y ont curieusement vu une forme de virilité conquérante ancrée dans les mémoires par les défilés du Troisième Reich. Il faut dire que les oies du Capitole, oies sacrées du temple de Junon, qui sonnèrent l'alarme lors de la sournoise attaque gauloise que même les chiens n'avaient pas détectée, ont contribué à leur forger une réputation de vaillance. Mais les nombreuses races d'oies domestiques ne sont pas isolées. Une 20aine d'espèces sauvages viennent compléter le cercle de famille, et quelles espèces ! la splendide bernache du Canada, d'1m80 d'envergure, l'élégant oie à tête barrée, Anser indicus, qui migre des plaines de Mongolie et des montagnes de Chine vers l'Inde, un gros oiseau qui franchit ainsi l'Himalaya en volant jusqu'à 10 km d'altitude sans assistance respiratoire. Une prouesse physiologique quand on pense à l'énergie que demande le vol dans un air raréfié. Et dire que cette oie, si remarquable, a été injustement accusée d'avoir propagé la grippe aviaire H5N1 au début des années 2000. Il faut dire qu'il était plus facile de pointer du doigt cette espèce sauvage que de remettre en cause nos élevages intensifs et les transports associés. Parmi ces espèces, n'oublions pas l'oinène, l'habitante du Grand Nord et de la Sibérie, une espèce que l'on tente de réintroduire en Europe avec des initiatives très originales, à l'image de celle de Christian Moulec, l'homme qui vole avec les oiseaux. Ce météorologue, passionné des oies, a imaginé les accompagner en ULM sur des voies migratrices délaissées. Une aventure popularisée par le beau film de Nicolas Vanier, « Donne-moi des ailes ». Un rêve qui n'est pas sans rappeler le voyage de Nils Holgersson. Ce serait oublier que l'oie est également un palmipède aquatique. D'ailleurs, son accouplement se déroule sur l'eau et il est quelque peu acrobatique, la femelle sous le poids du mâle pouvant se retrouver complètement immergée. Bref, l'oie est un animal qui nage, vole incroyablement bien et à qui on peut pardonner de se dandiner d'un air dédaigneux. Concluons en forme d'hommage avec trois vers de Jean Richepin. Si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils? Qui sont-ils? Comme ils sont loin du sol. Au fait, il paraîtrait que la poule aux odeurs était en réalité une oie.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec aujourd'hui des invités que je vais interroger à distance, donc je peux enlever mon masque. Bonjour tout le monde, le réveil culturel c'est tous les jours, tôt à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, si vous optez pour l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma, vous le savez, mais aujourd'hui, l'actu ciné rencontre une autre actualité, celle du sport, du football même. Mais il ne s'agit pas d'un film sur un ou des footballeurs, mais d'un documentaire en immersion avec une équipe de footballeuses, et pas n'importe lesquelles. Les footballeuses de l'Olympique Lyonnais qui a remporté sa 7e Ligue des Champions, la 5e d'affilée, dimanche 30 août dernier. Alors, quelle est l'histoire de cette équipe, de ces footballeuses qui ont réussi l'exploit de conjuguer au féminin un sport longtemps chasse gardé des hommes? Eh bien, un film, Les Joueuses, de Stéphanie Gillard, qui sort dans quelques salles d'art et d'essai, tente quelques réponses.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Quand j'étais à l'école et que tu dois marquer sur ta feuille qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel métier, j'en avais aucune idée. Donc je m'étais footballeuse comme ça, mais ça n'existait pas. Et c'était juste un rêve pour moi. Et puis c'était ce que j'aimais faire là, donc je mettais ça, quoi. Mais il n'y avait pas vraiment d'avenir. Ça devait être vers l'âge de 15-16 ans où j'entendais qu'il y avait des filles qui étaient un petit peu rémunérées ou qui étaient aidées par des clubs pour trouver un travail. Après, c'était beaucoup du défraiement. C'était vraiment de l'amateurisme. Mais tu pouvais quand même gagner un peu d'argent. Donc je me disais, bon, bah. Si je suis assez forte, bah, moi aussi je pourrais un petit peu en vivre, enfin, ça m'aidera, quoi. Et après en 2009, les contrats professionnels sont arrivés. Donc moi j'avais 20 ans, j'ai signé mon premier contrat. Alors bien sûr c'était un mi-temps, mais quelque part ça devenait un peu mon métier.
Stéphanie Gillard, c'est un extrait de votre film Les Joueuses qui sort au cinéma. C'est qui parle là?
C'est Eugénie Le Sommer.
Donc une des grandes voilà. Footballeuses de cette oui. équipe qui n'arrête pas de gagner. Le journal Le Monde dit « Jamais une équipe n'avait réussi une telle série en Coupe d'Europe depuis le Real Madrid entre 1956 et 1960 chez les hommes ». Donc on compare déjà cette équipe féminine de football avec une équipe de footballeurs. Et votre film vient nous rappeler qu'elles n'ont pas du tout le même statut que les hommes.
Non, c'est... Il y a encore un monde entre le football joué par les femmes et celui joué par les hommes. Maintenant, à l'Olympique Lyonnais, c'est plutôt, elles ont plutôt beaucoup de moyens comparés à d'autres clubs. Donc, c'est aussi la preuve que quand on donne les moyens les mêmes moyens qu'aux hommes, ben il y a de la réussite.
Stéphanie Gillard, pourquoi votre film s'appelle Les Joueuses et pas Les Footballeuses ?
Une des choses qui m'a le plus marquée quand je les ai rencontrées, c'est que elles étaient tout le temps dans l'esprit de compétition, mais qu'elles étaient tout le temps aussi dans le plaisir de jouer. Elles sont là pour jouer, mais jouer, c'est leur métier.
C'est un film de commande ou c'est un sujet que vous vouliez vous-même traiter, Stéphanie Gillard ?
C'est un sujet que je voulais traiter. Moi, à la base, je voulais juste faire un film en immersion dans une équipe de foot de femmes, en mode les yeux dans les bleus, mais chez des filles. Donc il a fallu qu'on cherche une équipe qui veuille bien de nous. Et quand on a rencontré Jean-Michel Aulas et qu'on lui en a parlé, il nous a tout de suite dit qu'il nous ouvrait les portes de son club pour qu'on fasse ce film. Et c'était une proposition qu'on ne peut pas refuser.
Et vous êtes restée combien de temps avec elle ?
Pendant 3 mois. Mmh. Voilà, j'ai commencé à y aller en février sans caméra. Juste assister à tous les entraînements, aller déjeuner avec elle à la cantine, venir dans les vestiaires avec elle. J'étais assise sur le banc dans les vestiaires. C'était un peu bizarre, je pense, pour elle. Mais aussi, c'est ça qui fait que je comprends un peu plus qui elles sont, comment elles fonctionnent entre elles, qu'est-ce qui se passe, les choses qui se répètent. Parce que le jour où je viens avec une caméra, il faut que je puisse prévoir plus ou moins ce qui va se passer et donc comment je vais le tourner.
Votre film répond effectivement aux questions que vous venez de poser, c'est-à-dire qui sont-elles, ces femmes qui pratiquent le football et qui sont dans cette équipe qui n'arrête pas justement de gagner et qui du coup commence à avoir une certaine visibilité, l'Olympique lyonnais. Mais j'ai l'impression, en voyant le film, que c'était aussi pour vous, Stéphanie Gillard, une manière presque militante de suivre cette équipe jusqu'à la reconnaissance.
Oui, il y a un côté militant. En tout cas, dans ma manière de le faire, c'est que très vite, je me suis dit, peut-être la manière la plus féministe de faire un film sur cette équipe, c'est de la filmer comme si j'avais filmé une équipe d'hommes, et donc la filmer dans son travail, dans qui elles sont, qu'on respecte le fait qu'elles fassent ce métier-là, qui est peut-être un métier d'homme pour plein de gens, mais qui en fait juste est le métier qu'elles avaient envie de faire. Voilà. Et comme le dit très bien Eugénie Le Sommer au début, une fille ou un garçon, c'est pareil. C'est les gens autour de vous qui vous rappellent que ça peut être bizarre. Et moi, j'ai été beaucoup élevée dans cette idée-là, donc je m'y reconnais vraiment. Pour moi, c'est qu'une fille ou un garçon, c'est pareil. Et moi, les questions féministes, c'est bien plus tard que je me les suis posées quand l'environnement extérieur me les renvoie. Mais Eugénie, quand elle commence le football, c'est juste parce qu'elle a envie de jouer au foot. Qu'elle ait des modèles hommes ne l'empêche pas d'avoir envie de jouer au foot. Et moi, quand j'ai commencé le cinéma, peut-être que mes modèles, c'était aussi des réalisateurs. Ça m'a pas empêché de vouloir faire du cinéma et de pas me poser la question de « je suis une femme, est-ce que je peux en faire ou pas ?» Voilà.
Alors votre film Les Joueuses a ceci de très important, c'est que vous filmez donc cette équipe de l'Olympique lyonnais, mais vous filmez aussi l'équipe junior pour voir et mesurer entre deux générations très rapprochées d'ailleurs, les deux générations,
ouais,
comment le sport, le football chez les femmes est perçu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça passe chez les jeunes footballeuses, elles commencent déjà à avoir des repères féminins dans ce sport.
Oui, c'est ça qui était intéressant dans cette équipe-là, c'est que au sein de la même équipe, il y a des footballeuses qui ont commencé, comme on l'entend avec l'interview de Génie, à une époque où c'est de l'amateurisme, où on n'est pas payé pour jouer. Donc il y a des footballeuses comme Wendy, comme Eugénie, comme Sarah qui ont connu cette époque-là. Et puis il y a des footballeuses comme Selma Bacha, comme Melvin Mallard qui ont 18 ans et qui ont signé leur premier contrat pro à 16 ans. Avec l'Olympique lyonnais, et d'avoir ces deux générations-là au sein de la même équipe, forcément ça allait me permettre de raconter l'évolution du football féminin dans l'histoire en France. Et là, ce qui était intéressant, c'est que c'était au sein de la même équipe.
Stéphanie Gillard, vous qui avez filmé donc ces joueuses et deux générations de footballeuses, comment le regard de la société, de leurs amis, de leur famille a évolué entre ces deux générations ?
Je pense qu'il a évolué dans le sens où des filles comme Eugénie ou Wendy, elles avaient besoin plus de se justifier par rapport à leur entourage, et que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, déjà elles ont des modèles féminins aujourd'hui, elles ont comme modèle les Wendy, les Eugénie, les Amandine Henry. Et comme il y a une reconnaissance et une professionnalisation du football joué par les femmes, ben je pense que c'est beaucoup plus facile pour elles d'exister et d'avoir une légitimité. Je pense qu'il y a encore du chemin. Je pense que pour les jeunes, c'est plus facile. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une différence de...
D'appréciation, disons.
Ouais, d'appréciation. Et je pense que les filles de la génération précédente, pour être soutenues par leur famille, il fallait qu'elles soient dans des familles qui soient vraiment, à mon avis, très ouvertes d'esprit. Et qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus facile.
Alors, ce qu'on voit dans votre film, c'est-à-dire, effectivement, on apprend à connaître ces joueuses, on apprend aussi à connaître cette équipe où ça parle plusieurs langues, on va en parler dans un instant, mais surtout, on voit le public.
J'ai beaucoup filmé des enfants parce que je trouvais ça intéressant de voir des enfants qui venaient, filles et garçons qui venaient s'identifier à des joueuses. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent les regarder, mais pas que. Enfin, c'est un public vraiment mixte. Moi, j'ai trouvé dans les stades et j'espère que ce public il va grandir d'année en année, quoi. En tout cas, elles sont en demande de ça. Elles ont envie de jouer dans des stades pleins, quoi, comme les garçons.
D'où viennent-elles ces joueuses, puisque dans votre film, on parle plusieurs langues?
Il y a pas mal de Françaises, mais il y a aussi une Japonaise, une Hollandaise, une Anglaise, une Norvégienne, une Canadienne.
Qui sont venues se réfugier à Lyon parce que c'est mieux de jouer dans ce club. Il y a plus de moyens qu'ailleurs dans le monde.
Oui, il y a plus de moyens. C'est le club de foot féminin qui donne le plus de moyens à ses filles, aussi bien dans les infrastructures que dans l'encadrement, les médecins, les kinés, etc. Et puis c'est le club qui a le plus beau palmarès dans le monde. Même au niveau de tous les sports collectifs confondus, je crois qu'on peut le dire. Et après, je sais qu'elles aiment beaucoup la ville de Lyon.
Mais pourquoi ?
Pour en avoir parlé avec elles, parce que la ville est agréable, donc voilà, c'est une ville dans laquelle elles aiment vivre.
Et dans votre film, on voit les joueuses n'hésitant pas à aller voir des écoliers, des collégiens pour parler de leur expérience. Par exemple, cette scène que j'aime beaucoup dans votre film, les joueuses, où Sarah Bouhadi, qui est la gardienne de but, va discuter avec des écoliers qui sont très jeunes. Ça doit être des écoles primaires, non, les élèves?
Ouais, c'est CM1, je pense que c'est CE2 ou CM1. Ouais.
Justement, on va écouter un extrait de cet échange de Sarah Bouhadi avec ses écoliers du CM1.
Vous connaissez?
Oui, Sarah Bouhadi, la boule.
Voilà.
Quel est votre record de jeu?
Ah, 2. Non, je suis pas très douée en jongle. Quand j'étais jeune, il fallait faire des concours d'entrée, donc il fallait faire des jongles. On demandait 50, j'arrive à faire 50. Après, si tu veux faire un concours et me demander 100, je pense que le ballon il va tomber avant.
De quelle origine êtes-vous?
Alors, mon papa, il est algérien et ma maman, elle est marocaine.
Comment?
Moi, c'est les deux qui sont...
Moi, c'est l'inverse.
Moi, je suis un algérien.
Oui?
Vous pensez que vous allez gagner la Ligue des Champions?
J'espère. Je pense que déjà, toute l'équipe, quand on démarre la saison, la préparation, on se met un objectif, c'est de la gagner avec le championnat et la Coupe de France. Donc, j'espère qu'on va faire le maximum pour essayer de gagner.
On voit bien que Sarah Bouhadi, donc la gardienne de l'Olympique lyonnais, prend sur son temps personnel pour aller expliquer aux enfants que le football peut se conjuguer au féminin. C'est une des séquences de votre film Stéphanie Gillard, Les Joueuses. Ça vient d'elles-mêmes ou c'est le club qui les pousse à aller faire la promotion de leur sport?
En fait, autour du club, il y a ce qui s'appelle l'OL Fondation, qui organise beaucoup d'événements éducatifs ou caritatifs qui fait venir beaucoup d'écoles de toute la région pour assister à des entraînements, venir voir des matchs. Elles prennent leur temps pour aller voir des enfants dans les écoles, dans les hôpitaux, et moi je trouve que c'est super. Et elles sont ravies en général de le faire, et c'était quelque chose que je voulais montrer parce que je trouve que c'est important de montrer que
ce côté militant qu'elles ont, parce que c'est aussi militer pour que leur sport et leur statut soient reconnus.
C'est militant et c'est rendre aussi ce qu'on leur donne et c'est faire évoluer leur sport, quoi. Et ça passe par aller parler avec des écoles et montrer aux petits garçons, parce que c'est essentiellement des petits garçons qui posent des questions à Sarah, que elle joue mieux au foot que eux déjà et que ils peuvent aussi avoir comme modèle une footballeuse. Les petites filles ont eu toute leur vie des garçons comme modèle. Pourquoi des fois des petits garçons n'auraient pas des filles comme modèle aussi ?
Surtout que ces écoliers connaissaient ces footballeuses.
Ben oui, bien sûr. Ils avaient préparé un peu leur entretien avec leur institutrice, je crois. Mais voilà, moi je trouve ça super. Enfin, j'adore cette séquence parce que j'adore Sarah après discute avec eux de la manière dont ils intègrent les filles quand ils jouent au foot dans la cour de récré. Et Sarah leur donne un peu des conseils, voire des règles à respecter sur la question. Et je trouve que c'est un beau moment parce que cette cour de récré, elle est déterminante pour plein d'enfants. Si les garçons sont les seuls à occuper tout le centre de la cour de récré pour jouer au foot, forcément les filles, elles sont autour, elles sont à la marge déjà dès la cour de récré, en fait.
Est-ce que les joueuses, les footballeuses de l'Olympique Lyonnais ont eu un droit de regard sur votre film, Stéphanie Gillard, ou le club d'ailleurs ?
Non, ils l'ont regardé, mais non. Il y avait juste des histoires de marques en fonction des contrats de l'Olympique Lyonnais qui ont imposé qu'on efface certaines marques de certaines séquences qui étaient c'est des histoires de contrats. Moi j'en étais pas consciente quand j'ai tourné le film. J'ai su le dernier jour du tournage, donc si j'avais su avant, j'aurais peut-être fait plus attention. Mais non, ils l'ont regardé et elles n'ont rien dit. Wendy s'est retournée pour me dire « t'as fait du bon travail » et voilà quoi.
Et c'était le but pour vous, Stéphanie Gillard, de les mettre en valeur ?
Oui, c'était l'origine de l'idée. C'était mon idée, c'était que les gens s'enthousiasment pour un sport ou une équipe à partir du moment où ils connaissent les individualités. Et que on peut avoir le plus beau palmarès du monde, si on connaît pas la personnalité du champion, le public ne suit pas derrière. Donc j'avais aussi envie de les faire connaître. Et après, les mettre en valeur, c'était facile parce qu'elles sont super. Mais j'avais envie de les faire connaître leur travail, quoi.
Et de ce côté-là, c'est réussi parce qu'on les connaît, on les connaît mieux. Enfin, dernière question. Stéphanie Gillard et vous-même, vous venez donc du cinéma du réel, du documentaire. Quel est le cinéma qui vous a nourri avant de vous lancer à votre tour dans la réalisation des films?
Alors, pas celui que je fais, mais pas du tout. J'ai été nourrie au cinéma classique hollywoodien des années 40 à 70. Beaucoup de comédies musicales de la MGM, et puis des films noirs, et puis un peu le nouvel Hollywood, tout ça. Donc pas du tout du documentaire. Après, c'est quand j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel et que j'ai travaillé sur un documentaire que je me suis dit que peut-être c'était le cinéma que j'apprécierais le plus de faire, peut-être plus que celui que j'aime regarder.
Pourquoi ?
Après, parce que les films que j'aime sont des films vraiment de mise en scène. Et j'adore De Palma, j'adore Hitchcock, et pour avoir travaillé sur des tournages de fiction, je sais que je détesterais être dans leur peau et de devoir demander de refaire 10 fois une séquence, avoir autant de gens à mes ordres. Je sais que j'aurais du mal à le faire.
Vous préférez vous cacher et capter le réel ?
Oui, et puis aussi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce que j'adore dans le documentaire, c'est l'expérience que je vis avec les gens que je rencontre. Et rencontrer des vraies personnes, pour moi, c'est plus important que d'imaginer une histoire. Et voilà. Après, dans mon inspiration, il y a quelqu'un qui compte beaucoup aujourd'hui, c'est David Simon, qui est le créateur de The Wire et d'autres grandes séries. Et qui est une série de fiction, mais qui, à mon avis, a quelque chose de très documentaire dans sa structure. Et c'est peut-être de lui dont je m'inspire le plus dans ce que je fais, même si ça n'a rien à voir.
Voilà. Les joueuses, votre film sort dans quelques salles d'art et d'essai aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va voir un film d'Emmanuel Mouret, que vous devez connaître, Stéphanie Gillard.
Oui, alors, enfin, je ne le connais pas personnellement, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Oui.
Bon, et ben, vous partagez ce point avec notre auguste critique, Michel Simon, qu'on va retrouver dans un instant. Merci beaucoup, Stéphanie Gillard, d'avoir répondu à mes questions et à distance. À très vite.
Merci. Au revoir.
Culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
T'es avec quelqu'un, je peux pas.
Mais même un baiser.
Même un baiser, c'est un principe.
Je sais pas ce que je veux. Enfin, si, mais non, enfin bon, quand même. Toi, tu pourrais vivre résigné.
Il ne faut pas mettre de la gravité là où il n'y en a pas. Quel mal y a-t-il à ce que deux corps s'entendent bien et prennent plaisir de l'accompagner de l'autre?
Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?
L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement.
Les choses qu'on fait et les choses qu'on dit. Le film d'Emmanuel Mouret sort la semaine prochaine et c'est le coup de cœur de Michel Simon avec nous au téléphone. Bonjour Michel, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison.
Alors, oui, là, c'est le coup de cœur de la rédaction de Positif aussi, et pas seulement la mienne bien sûr. La semaine prochaine, on verra donc ce nouveau film d'Emmanuel Mouret, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Emmanuel Mouret en est à son 10e film, je crois, ou environ. Il a commencé par des petites comédies très sympathiques comme Vénus et fleurs ou Un baiser s'il vous plaît. Et puis il s'est épanoui et depuis le dernier film, Mademoiselle de Jonquière, qui a remporté un très grand succès, il est devenu vraiment un cinéaste majeur, à mon avis, très talentueux, inspiré par Diderot dans le cas du film précédent. Aujourd'hui, on est plus proche de Marivaux, sauf que ça se passe aujourd'hui dans une petite ville de province. Et c'est des histoires de quadrilles, de couples joués merveilleusement par Camilla Jordana, Neil Schneider, Vincent Macaigne et Émilie Dequesne. Ce sont des gens qui racontent finalement leur vie amoureuse, et raconter leur vie amoureuse, ça stimule leur vie amoureuse aujourd'hui. C'est un marivaudage merveilleux, mais un film en même temps mélancolique. Et c'est très beau de voir quelqu'un qui, depuis 20 ans, fait des films et qui s'épanouit vraiment pour devenir un auteur majeur. Et en plus, c'est une comédie dramatique, si on veut. C'est pas seulement une comédie, c'est aussi une comédie, mais c'est pas seulement une comédie. C'est le film français par excellence. C'est ce que les étrangers nous admirent en France, c'est-à-dire Romère en particulier. C'est-à-dire de savoir faire des films sur la parole. Ça remonte à très loin, ça remonte à Guitry, ça remonte à Pagnol. Il y a toute une tradition. Mais en même temps, c'est pas simplement du dialogue. C'est merveilleusement mis en scène. Le problème, c'est de rendre le dialogue comme un suspense. Le dialogue devient un élément de suspense.
Merci beaucoup, Michel Simon. Et à bientôt.
Merci, Tofik. À bientôt.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret sort la semaine prochaine, mais dès aujourd'hui, dans quelques bonnes salles d'art et d'essai, vous pouvez découvrir ce très beau documentaire de Stéphanie Gillard, notre invitée de ce matin. Un documentaire donc consacré aux footballeuses lyonnaises, les joueuses. Demain, c'est la musique, et demain, je serai avec Julien Doré. Passez une excellente matinée avec France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le 2 mai 1980, le jeune journaliste Edoui Plenel, débauché du Matin de Paris, arrive à la rédaction du Monde.
15 ans de très grand bonheur, dit-il. D'abord à la rubrique éducation, puis police. Il enchaîne les enquêtes et révèle à 33 ans l'affaire du Rainbow Warrior. Raconter le parcours d'Edoui Plenel, c'est aussi raconter l'histoire d'un succès journalistique, celui du site en ligne Mediapart. À voix nue, Edoui Plenel, cette semaine à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr. Et si Van Gogh n'était pas celui que vous croyez, un fou, un génie, un peintre maudit, aussi ignoré de son temps qu'adulé d'une autre, un peintre instinctif, méprisant tradition et ambition. Revenons aux lettres, aux toiles. Transparaît un esprit vif, cultivé, érudit, un artiste persévérant, parfaitement au fait du marché de l'art et de la valeur de son travail. La Compagnie des œuvres, Vincent Van Gogh, par Mathieu Garrigou-Lagrange, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Un procès pourrait voir le jour contre trois hauts responsables politiques. Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran sont accusés de ne pas avoir correctement protégé la population lors de la crise sanitaire du printemps. Trois médecins seront entendus aujourd'hui par la Cour de justice de la République, mais ils ne sont que témoins, regrette leur avocat. Vous l'entendrez dans ce journal. À l'aube d'un séminaire gouvernemental sur le séparatisme, nous irons ensuite en Grande-Bretagne, un pays où État et religion ne sont pas séparés. L'Australie n'a pas de journalistes présents en Chine. Les deux derniers, pour ne pas se faire arrêter, ont été contraints de quitter le pays. Nous vous expliquerons pourquoi. Et puis dans cette édition, zoom sur l'économie palestinienne. Elle risque l'effondrement. La Cour de justice de la République entend donc ce matin les premiers témoins de la gestion de la crise sanitaire. Il s'agit de trois médecins qui poursuivent trois hauts responsables politiques, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran. Ont-ils rempli leurs obligations en matière de prévention? Les masques par exemple, étaient-ils disponibles, nécessaires? Les trois médecins plaignants veulent des réponses, mais ils ne sont entendus aujourd'hui qu'en qualité de témoin. Leur avocat, maître Fabrice Dividio, regrette que devant la Cour de justice de la République, il soit impossible de se porter partie civile.
C'est une originalité très française, en fait, de la Cour de justice de la République, où on est quand même dans une justice de classe, on est quand même dans une justice feutrée, on est dans une justice spéciale. On ne va pas traiter les trois prévenus, qu'on ne qualifie même pas encore de prévenus, d'ailleurs. On ne va pas traiter les trois prévenus comme on traiterait un citoyen lambda devant le juge d'instruction.
Alors, au regard de l'étrangeté de cette procédure devant la Cour de justice de la République, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que les choses vont vite et que finalement c'est bien que vos témoins soient auditionnés?
Je ne m'en plaindrai pas, évidemment que c'est bien. Je veux dire, ce n'est pas parce que le système est imparfait qu'il faut le rejeter en bloc. Et je salue la circonstance que la commission des requêtes, qui est cette première commission, ce premier filtre, a quand même dit qu'il fallait enquêter. Et finalement, elle l'a dit vite. Elle l'a dit en 3 mois, c'est la première fois de l'histoire que des ministres sont ainsi effectivement mis en cause dans une affaire qui n'est même pas encore terminée. Regardez, prochainement s'ouvre le procès d'Edouard Balladur pour l'affaire Karachi. Vous avez vu le temps que ça a mis. Alors que là, nous sommes allés extrêmement vite, signe que quand même la justice n'a pas envie de faire du favoritisme, et c'est une très bonne chose. Elle a envie de se montrer la plus impartiale possible, parce qu'à un moment donné, le scandale est à son paroxysme.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. Tara, que nous retrouverons à 7h25 pour le reportage de la rédaction consacré à ce procès qui s'ouvre aujourd'hui. Le gouvernement, pendant ce temps, poursuit son travail. Conseil des ministres en visioconférence aujourd'hui pour éviter tout risque de contamination. Le Premier ministre a en effet passé 2 heures avec Christophe Prudhomme, directeur du Tour de France samedi dernier. Christophe Prudhomme, qui a depuis été testé positif au Covid-19. Jean Castex, lui, est pour le moment négatif. Après ce Conseil des ministres, ce matin se tiendra un séminaire gouvernemental. L'un des sujets du jour sera la sécurité et notamment le séparatisme islamiste. Le gouvernement veut par exemple renforcer le contrôle des associations pour mieux faire respecter la laïcité. Ce matin sur France Culture, nous avons choisi d'aller en Grande-Bretagne où religion et État ne sont absolument pas séparés. Reportage de Richard Place à Morden dans le sud-ouest de Londres où se dresse l'une des plus grandes mosquées d'Europe occidentale.
L'imam Mansour Clark sert de guide dans cette bâtisse immense qui peut accueillir jusqu'à 16 000 personnes. Deux grandes salles de prière, une pour les femmes, une pour les hommes, une cuisine, une salle de restauration collective, un studio télé, une radio et une sorte de gymnase géant. D'ailleurs, dans un coin, il y a des panneaux de basket. Mansour Clark est très fier de ce lieu qu'il veut ouvert à tous.
Nous l'ouvrons aux écoles qui peuvent faire passer des examens ici. Les pompiers du quartier viennent s'entraîner dans cette salle. Des gens organisent leur mariage ici. C'est un espace pour la communauté au sens large. Les mosquées ne sont pas faites que pour les musulmans.
Donc si je suis chrétien, je peux venir me marier ici ?
Vous pouvez utiliser cette salle pour ce que vous voulez.
Cette mosquée XXL s'intègre complètement dans le quartier. Akib Khan fait partie des fidèles qui viennent prier ici. Il habite à Morden et il décrit une belle harmonie.
C'est confortable. Chaque fois que nous, les musulmans, nous organisons un événement dans le quartier, nous recevons beaucoup d'aide de la part des voisins. Ici, les gens se respectent.
Les musulmans anglais expliquent que nier leur religion leur serait impossible. C'est le cas de Farhad Ahmad. Il n'a aucun problème avec l'autorité, d'autant plus qu'elle reconnaît sa foi.
C'est important pour les musulmans d'être loyaux au pays auquel ils appartiennent. Mais en même temps, il est primordial que le pays respecte les sensibilités religieuses de chacun. Et c'est certain, les musulmans doivent se plier aux lois du pays. C'est l'un des enseignements de l'islam.
Pour ces musulmans, l'idée de cacher leurs croyances dans certains lieux, de ne pas afficher leur foi, ça leur semble impossible.
Richard Place pour France Culture. Une grande opération de sauvetage est en cours sur l'île grecque de Lesbos, dans le camp de migrants de Moria. Plusieurs feux se sont déclenchés tôt ce matin, autour et dans le camp. Un camp qui héberge près de 12 500 demandeurs d'asile, quatre fois plus que sa capacité d'accueil. Selon un premier témoignage sur place, des personnes fuient ce camp à pied en ce moment en direction du port de Mytilène. Ces personnes seraient bloquées par des véhicules des forces de l'ordre et par des habitants de villages voisins. En Chine, deux journalistes australiens ont dû quitter le pays en catastrophe lundi soir. Ils craignaient en fait d'être arrêtés pour des raisons de sécurité nationale. Et cela au moment où les États-Unis évoquent de nouvelles restrictions de Pékin contre les médias étrangers. Les précisions à Pékin de Stéphane Pambrin.
C'est un feuilleton rocambolesque pour ces deux reporters australiens qui ont fui précipitamment la Chine après avoir trouvé refuge pendant plusieurs jours dans des locaux diplomatiques australiens à Pékin afin d'échapper à la police d'État chinoise. Ils ont dû accepter un interrogatoire en règle avant d'être autorisés à quitter la Chine. Un interrogatoire qui avait pour objet, explique-t-il, une autre journaliste australienne, Cheng Lei, présentatrice, elle, pour la télévision publique chinoise anglophone CGTN, est détenue dans une prison secrète pour, apprend-on, atteinte à la sécurité nationale. Les médias australiens sont désormais privés aujourd'hui de tout correspondant en Chine, signe d'une escalade dans le conflit qui oppose les deux pays. Ces dernières années, l'Australie n'a cessé de s'opposer à ce qu'elle estime être, depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2013, l'influence grandissante de la Chine en Asie-Pacifique. Canberra a provoqué la fureur de Pékin il y a quelques mois en demandant une enquête sur les origines de la pandémie de Covid-19. Depuis, la Chine a pris toute une série de mesures de rétorsion économique à l'encontre de l'Australie, dont elle est le premier partenaire commercial.
Les tensions entre la Chine et l'Australie, Camille Magnard en faisait l'écho dans sa revue de presse internationale hier, a retrouvé en podcast France Culture. Et ce matin, à 7h35, il sera question de la gestion du Covid-19 en Inde. Un virus qui a fait près de 900 000 morts dans le monde depuis le printemps dernier. Notez que cette nuit, les essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés développés par Oxford et AstraZeneca, ces essais ont été suspendus après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un volontaire. Dans les territoires occupés palestiniens, la crise du Covid-19 est surtout une crise économique qui amplifie la précédente. Les Nations Unies estiment même que la pandémie pourrait faire chuter le PIB palestinien de presque 35%, Jérémy Lanche.
Une pandémie n'arrive jamais au bon moment, mais dans le cas des territoires palestiniens occupés, le timing est particulièrement inquiétant. En 2019, la Cisjordanie enregistrait son plus faible taux de croissance depuis 2012. À Gaza, il était quasiment proche de zéro. Le chômage a encore augmenté pour atteindre un tiers de la population active. Exsangue, l'économie palestinienne pourrait ne pas se remettre d'un nouveau choc, selon Mahmoud El-Rafif. C'est le coordinateur de l'aide au peuple palestinien à la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
It's on the verge of collapse.
Est-ce que l'économie palestinienne est sur le point de s'effondrer? C'est possible. En 2000, au moment de la seconde intifada, on était en pleine croissance. La différence aujourd'hui, c'est que le Covid arrive à un moment où l'économie est à l'arrêt, Gaza est confinée depuis 2007 et le blocus imposé par Israël, et son économie a déjà chuté de 11% en 2 ans.
Le Covid menace également les finances de l'autorité palestinienne, avec la chute des recettes perçues au titre du commerce et du tourisme. Quant à l'aide internationale, elle devrait atteindre en 2020 son plus bas niveau depuis 10 ans. La CNUSED appelle les principaux bailleurs de fonds à ne pas relâcher leur soutien au peuple palestinien. 26 000 cas de Covid ont pour le moment été recensés en Cisjordanie et à Gaza, un chiffre largement sous-estimé de l'avis même de l'ONU.
Et dans ces conditions, qui veut investir à Gaza? Élément de réponse avec Julie Gacon et son invité dans les enjeux internationaux à 6h45 dans 5 grosses minutes. Le temps de ce mercredi restera ensoleillé sur une très grande partie de la France métropolitaine, mais des pluies orageuses sont attendues sur le sud-est, sur tout le littoral, de Nice jusqu'à Perpignan. Pour les températures comptées ce matin, 14 degrés à Brest et à Strasbourg, 17 à Bordeaux et à Lyon, 19 degrés à Paris, 25 sous la pluie de Marseille. Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Zoom dans votre journal des idées sur la situation en Biélorussie ce matin. Oui. Elle concerne directement l'Union européenne et elle implique au premier chef nos relations avec Moscou.
Oui. Alors tout d'abord, les grossières manœuvres du président Loukachenko pour museler son opposition et se maintenir au pouvoir ne trompent personne, évidemment. Figure de proue du mouvement de contestation, Maria Kolesnikova avait disparu le 7 septembre. Son entourage ne peut croire à la version officielle qui annonce son arrestation alors qu'elle aurait voulu soi-disant s'enfuir à l'étranger, souligne Courrier International. Au contraire, ses proches affirment qu'elle et les deux membres du comité de coordination de l'opposition qui l'accompagnaient y étaient farouchement opposés. Il y a de fortes chances qu'ils aient été conduits à la frontière depuis la maison d'arrêt, estime-t-il. Il ne fait aucun doute que les autorités ont voulu simuler une fuite, ajoute le indépendant Belorusski Partisan. Si le Kremlin ne vole pas au secours de Loukachenko, ce n'est pas par revirement idéologique ou stratégique, mais parce que sa marge de manœuvre est étroite, analyse Marie Mandras dans Le Monde. Elle rappelle le réflexe à Moscou qui consiste à porter secours à un voisin en difficulté par crainte de l'effet domino, comme en Ukraine en 2014. Vladimir Poutine voulait maintenir Viktor Yanukovych à son poste tout en le tenant fermement sous sa coupe. Le scénario avait échoué et la révolution Maïdan avait gagné. Le Kremlin avait alors essayé de faire déraper la transition en criant au coup d'État sans succès, puis avait choisi la manière forte, annexion de la Crimée et intervention militaire dans l'est de l'Ukraine. Il semble peu probable qu'il s'y risque aujourd'hui, d'autant que la Biélorussie est le seul État voisin de la Russie qui ne se trouve pas plombé par des séparatismes régionaux toujours soutenus par Moscou. La Transnistrie, en Moldavie, le Haut-Karabakh pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, en Géorgie, la Crimée et le Donbass en Ukraine, observe la spécialiste du régime russe. Les 10 millions de Biélorusses, écrit-elle, ont développé un fort attachement à leur république. Leurs valeurs citoyennes sont républicaines, pas ethno-nationalistes. Sans prétention territoriale, comment pour la Russie justifier l'intervention armée et pour quels objectifs? Marie Mandras relève que la Russie est en train de perdre d'importants ancrages dans sa zone d'influence. Ukraine, Géorgie, Arménie et aujourd'hui la Biélorussie. Un échec de la stratégie menée pendant 20 ans par Vladimir Poutine, figer ses voisins dans un état de souveraineté faible, enfermé dans une dépendance économique et sécuritaire à l'égard de la Russie. Des pays qui misent désormais sur un rapprochement avec les voisins européens. Dans la dernière livraison de la revue Politique étrangère, Roman Kouzniar énonce les préalables à toute relation sérieuse de l'Union européenne avec la Russie. D'abord, ne pas se cacher la nature véritable, en partie hérité de l'histoire de la politique étrangère russe, un esprit néo-impérial et une logique visant à peser sur la situation globale en Europe, notamment par une guerre idéologique qu'elle emprunte la forme de cyberattaque, de désinformation ou de soutien des partis parti nationaliste hostile à l'Europe unie. Ensuite, et à raison même, maintenir un front européen uni pour contrer les tentatives de division induites par la multiplication des relations bilatérales. Il s'agit d'éviter que le Kremlin ne choisisse lui-même les termes du dialogue en écartant les questions gênantes sur les droits de l'homme ou la sécurité et en limitant les gains de l'Europe à des contrats intéressants seulement certains pays. Je cite, le dialogue, les accords ne peuvent pas être sélectifs. Nous ne pouvons nous limiter à des contrats lucratifs et à des feux d'artifice diplomatiques. L'ancien directeur de l'Institut polonais des relations internationales, qui dirige aujourd'hui le département des études stratégiques de l'Université de Varsovie, en appelle à l'esprit de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la CSCE, et à l'acte final d'Helsinki, signé en 1975 avec Leonid Brejnev. Le document fixait des engagements conjoints sur trois grandes questions, la sécurité en Europe, les droits de l'homme et le développement de la coopération entre les États. Roman Kouzniard rappelle que sur cette base, les discussions se sont poursuivies, bon an mal an, avec une remarquable réussite. Nul doute que Vladimir Poutine, pur produit du KGB et que l'on sait nostalgique de la grandeur de l'URSS, ne soit sensible à ce rappel de l'histoire, d'autant plus que la relation asymétrique engagée avec une Chine beaucoup plus puissante tend à réduire la Russie à une semi-colonie, réservoir de matières premières. Le partenariat sans faux semblant avec l'Europe constitue pour Moscou une bien meilleure option que celle de devenir un partenaire junior de la Chine. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, bonjour.
Bonjour
Julie,
Jacques.
Julie Gacon, c'est l'heure des enjeux internationaux avec cette question au sommaire, qui veut investir à Gaza?
Oui, le Hamas et l'armée israélienne ont annoncé la semaine dernière un arrangement, c'est le mot employé, pour mettre fin au cycle infernal de tirs de roquettes et de ballons incendiaires sur Israël de la part du mouvement palestinien et de pilonnage de sites du Hamas par l'armée israélienne. Un arrangement donc trouvé avec la médiation du Qatar, cette fois, qui s'est engagé à verser 20 à 25 millions d'euros par mois à l'enclave palestinienne contrôlée par le Hamas depuis 2007, soumise depuis à un blocus de ses voisins, Israël et Égypte, et très affectée, comme on l'entendait dans le journal, par le coronavirus. Bonjour Taher Labadi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur post-doctorant en économie politique à l'IREMAM, qui est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman. Alors Taher Labadi, à quoi et à qui doit bénéficier l'argent versé en liquide, c'est ce qu'on nous précise, par le Qatar?
Eh bien, tout d'abord, il va bénéficier, donc il y a une partie qui sera versée directement au mouvement du Hamas pour le paiement des salaires de ses fonctionnaires. Et puis, il y a une autre partie, d'après ce qu'on sait, qui sera versée directement à des familles démunies, donc un certain nombre de familles. Tout cela sous le contrôle, évidemment, d'Israël, qui contrôlera l'entrée d'argent sur le territoire.
L'argent aux plus démunis, 100 dollars par famille, ça représente quoi à Gaza?
Écoutez, ça représente pas grand-chose, mais c'est toujours ça. On est aujourd'hui sur un territoire qui a une économie dévastée soumise à un blocus depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 10 ans maintenant, et donc on a plus de 70% de la population qui dépend d'une aide humanitaire déjà, avec un taux de chômage qui est un des plus élevés au monde aussi. Donc 100 dollars par famille, ça va être un petit quelque chose de plus, mais il faut savoir que de toute manière l'aide humanitaire à Gaza est déjà déterminante, prépondérante.
Le Qatar, il a obtenu du Hamas qu'il cesse les tirs de roquettes et de ballons incendiaires en échange aussi de certains engagements d'Israël comme la remise en service de la seule centrale électrique du territoire. Pourquoi est-ce qu'elle était arrêtée?
Alors en fait, il faut remonter, il y a toute une histoire à ce blocus qui a connu différentes phases, une phase assez sévère, en particulier de 2007 à 2010, et puis un assouplissement qui a été obtenu par les Palestiniens suite des guerres successives qui ont été menées sur le territoire, et notamment en 2014, donc il y avait dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, une demande d'un... Enfin, il était prévu que le blocus soit allégé. Et en fait, l'accord n'a jamais été vraiment appliqué. Très vite, il y a un blocus qui a été renforcé. Enfin, voilà. Selon l'actualité politique du moment, on va dire. Et là, depuis quelques mois, Israël avait à nouveau renforcé ce blocus. Et les Palestiniens à Gaza avaient réagi, notamment l'envoi de ballons incendiaires depuis quelques semaines. Mais avant cela, il y avait eu d'autres initiatives, notamment par exemple en 2018, on se rappelle des marches du retour. C'était un peu la même idée aussi. C'était des manifestations donc à la frontière pour protester contre le blocus. Et donc voilà, on a là des ballons incendiaires depuis quelques semaines qui ont entraîné une escalade, comme vous l'avez dit. Et Israël qui demandait dans les négociations à ce que ce soit le calme contre le calme, c'est-à-dire que si vous arrêtez, vous Palestiniens, les ballons, on arrête les bombardements, et le Hamas et les autres forces palestiniennes à Gaza exigeaient quand même qu'en échange il y ait un allègement du blocus. C'est en partie ce qui a été obtenu, pas complètement... comme le voulaient les Palestiniens, mais il y a un allègement qui a été négocié.
Le cash contre le calme, disent les journaux israéliens.
Voilà, c'est
oui,
ça.
Tahir Labadi,
cette
centrale électrique, elle alimente tout sur le territoire de Gaza, et notamment les hôpitaux. Est-ce que l'accord comprend aussi, c'est ce qu'on lit, une assistance médicale pour aider Gaza à faire face à l'épidémie? On entendait dans le journal que le territoire palestinien, tout comme la Cisjordanie, est très touché par l'épidémie. 26 000 cas recensés, mais largement sous-estimé d'après les Nations Unies, qui estime à près de 35% la chute à venir du PIB. Comment coopère par exemple le système de santé de Gaza avec celui de Cisjordanie, malgré la brouille entre le Hamas et l'autorité palestinienne depuis 2007?
Alors, la coopération est très faible. En fait, tout ça dépend... Bon, déjà, il y a la brouille avec l'autorité palestinienne, donc en Cisjordanie. S'ajoutent à cela les restrictions donc sur les déplacements qui sont mises par Israël. Et donc, c'est géré au cas par cas. Il faut, pour qu'un Palestinien puisse sortir de Gaza pour se rendre dans un hôpital en Cisjordanie, il faut toute une procédure, demande d'autorisation auprès des autorités israéliennes pour obtenir un permis. Donc, c'est assez compliqué. Et donc, effectivement, tout ça dans un cadre où le corona a connu... Le territoire avait été épargné pendant jusqu'ici, mais depuis une quinzaine de jours, au moins, on va dire, il y a effectivement un nombre de cas importants. Et donc, ça aussi, ça a participé à accélérer le fait de trouver un arrangement.
2 millions de personnes confinées, un accès à la mer interdit sous une chaleur de plomb, sans compter les Gazaouis que la crise sanitaire a privé d'emploi. Donc, l'argent du Qatar s'apparente plus à une aide qu'à un investissement, mais il se pourrait qu'il rallonge un peu l'enveloppe, c'est ce qui se dit, pour relancer l'économie. Ça consisterait en quoi? Quels sont les projets d'infrastructures évoqués ou invoqués?
Alors, il y a beaucoup à faire. En fait, il faut... le Qatar ne serait peut-être pas le seul impliqué. Moi, je me souviens qu'à l'époque, la Turquie était aussi fortement impliquée sur les projets d'infrastructures. Et donc, il y a tout à refaire à Gaza. Entre l'économie qui a été dévastée par le blocus et les infrastructures qui, elles, ont été affectées par les différentes guerres, le fait que des produits de construction ont du mal à rentrer sur le territoire, voilà, on est dans une situation où comme vous l'avez dit, en fait, il n'y a qu'une seule centrale électrique qui dessert assez mal tout le territoire. Il y a des coupures d'électricité régulières, quotidiennes. Et donc on est l'investissement en infrastructure concernerait donc le renforcement des capacités électriques, mais aussi tout ce qui est la gestion du système aquifère, où on a aussi un gros problème sur l'approvisionnement en eau. Les routes évidemment, les bâtiments publics, etc. Donc il y a tout un tas de choses sur lesquelles cet investissement serait concerné.
Un accès à l'eau, le raccordement aussi aux gisements de gaz dans la Méditerranée et avec des pipelines, c'est une suggestion qui est faite très souvent. La zone de pêche, dans l'arrangement trouvé avec le Qatar entre Israël et le Hamas, la zone de pêche est à nouveau accessible pour les Palestiniens. Qu'en est-il d'un éventuel projet de port? Parce qu'il faut rappeler quand même que Gaza était l'un des plus grands ports de la Méditerranée antique. Ça remonte au IIe siècle. Gaza a développé la viticulture. Le vin de Gaza était un produit de luxe très réputé dans l'Empire romain, et très souvent revient cette idée que soit remis en service un port, peut-être sur une île artificielle.
Alors, écoutez, des projets comme ça, il y en a beaucoup. On a parlé de ports, on parle d'aéroports. Faut savoir que tout ça, je reviens encore à ça, c'est soumis à une restriction israélienne. En fait, dans le territoire de Gaza, on est vraiment dans une situation inédite où il y a le territoire bénéficie d'une autonomie jamais atteinte au niveau palestinien et demeure quand même complètement sous blocus, sous restriction. Donc c'est un contrôle des frontières aériennes, maritimes et terrestres par Israël. Et c'est Israël en fait qui décide aussi de la possibilité d'ouvrir un port ou un aéroport. Donc si vous voulez, la mise en opération du projet de port ou d'aéroport, ce sera une question de qui veut investir et là il n'y aura pas trop de soucis. Mais c'est vraiment la décision politique souveraine de la possibilité d'ouvrir un port qui est en jeu aujourd'hui et qui est pas du tout gagné en fait, si vous voulez. Enfin, je pense que on en est loin, même si c'est des projets qui sont tout le temps soumis à discussion et qui reviennent sur le tapis.
Tahrir Labadi, à une époque pas si lointaine, c'était au début des années 2000, où l'on construisait partout dans les territoires palestiniens, surtout en Cisjordanie. Pourquoi des investissements étrangers massifs à ce moment-là? Par qui? Vous mentionnez la Turquie il y a un instant, et pourquoi ça n'a pas tenu?
Alors, quand je parlais de la Turquie, c'était vraiment à Gaza, après le blocus, donc déjà après 2007. Mais la phase dont vous parlez, c'est une phase où on a parlé un peu d'une économie florissante. En fait, c'était beaucoup illusoire. C'était un boom qui n'a pas en fait touché tous les territoires. Vraiment, c'était vraiment Ramallah en fait qui a connu, donc Ramallah en Cisjordanie, qui a connu ce boom immobilier. Il s'agissait d'investissements privés, mais en fait beaucoup de c'était des capitaux qui venaient de l'extérieur, grâce à une élite qui s'est enrichie, notamment avec l'aide internationale qui est arrivée. Si vous voulez, c'est beaucoup plus de l'aide internationale et des flux venant de l'étranger par cette aide. Et donc quelques investissements qui ont été faits au moment où on croyait encore dans une paix économique, si vous voulez, et beaucoup moins des investissements sur l'économie même. C'est-à-dire que finalement, si on regarde sur la même période, il y a eu un recul croissant et un démembrement du tissu économique palestinien, que ce soit au niveau industriel ou agricole.
Merci beaucoup. Tahrir Labadi, on a tendance à en parler de capitaux, c'est l'aide étrangère qui compte dans le budget total de Gaza et peut-être une possibilité que l'autorité palestinienne, qui avait réduit il y a 2-3 ans ses paiements mensuels à Gaza de 30 millions de dollars par an, y consente à nouveau. Ça fait aussi l'objet de discussions. Merci beaucoup Tahrir Labadi d'avoir été avec nous, chercheur post-doctorant en économie politique à l'IREMAM et au LEST, laboratoire d'économie et de sociologie du travail à Aix-en-Provence. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
À midi, réservez votre écoute à la grande table d'Olivia Gesbert.
C'est une success story. Après avoir cartonné avec Edmond, Alexis Michalik remet en scène une histoire d'amour qui lui a valu un troisième Molière. Puis Lionel Jospin prend la plume pour défendre sa vision de la politique en temps de crise. 3 ans de macronisme et après, notre invité est l'ancien artisan de la gauche plurielle, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin.
La Grande Table, ce mercredi à midi sur France Culture et sur franceculture.fr. Cette semaine sur France Culture, la série documentaire « Cherche la petite bête », Perrine Kervran.
Du chien fidèle au chien errant, de la puce à la punaise, en passant par les animaux d'élevage ou les grands singes, il faut l'admettre, nous vivons en permanence avec les animaux. Alors LSD vous propose d'en savoir plus sur ses voisins si proches, et on espère bien que toutes les espèces seront au rendez-vous de l'autre côté du poste.
LSD, du lundi au jeudi à 17h et 23h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
6h57, votre humeur du jour. Jean Castex soumis au test du Covid. Voilà un nouvel épisode du théorème de Philippe Roth.
Ben oui, c'est l'information du jour, Julie. Jean Castex a été soumis donc à un test du Covid parce que le Premier ministre est monté dans la voiture du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, lui-même testé positif au coronavirus. Or, Le Premier ministre s'est révélé négatif, ce qui s'explique en premier lieu par son respect des gestes barrières. Mais si l'on veut adopter une vision peut-être plus littéraire, cela pourrait s'expliquer par la règle développée par Philip Roth dans son dernier roman Némésis. Némésis est un fantastique roman dont je vous conseille la lecture aujourd'hui même. Il met en scène une épidémie de poliomyélite à New York, aux États-Unis, en 1944. Si je vous recommande cette lecture, c'est parce que Roth raconte dans ce livre, de manière absolument prémonitoire, ce qui nous arrive, une épidémie à laquelle on ne comprend pas grand-chose, mais une épidémie plus terrifiante encore que celle que nous vivons, parce qu'elle frappe les enfants, vous vous imaginez. Si en lieu et place d'un Covid qui touche les adultes, nous avions la polio qui s'attaquerait à nos enfants, paralyserait les uns et tuerait les autres, notre quotidien rythmé, comme dans le roman de Roth, par des enterrements de fillettes et de garçonnets. Alain Finkielkraut, d'ailleurs, a consacré un très beau numéro de réplique à cet ouvrage. Mais alors, quel est le lien entre ce roman et la situation de Jean Castex? Eh bien, au final, même si l'on est absolument rationnel et scientifique, il y a un moment, dans une épidémie, où l'on ne comprend pas pourquoi l'un est touché et pas l'autre. Voilà pourquoi le roman de Roth s'appelle Némésis. C'est la déesse grecque de la juste colère et du châtiment divin. Némésis s'en prend aux êtres coupables d'hubris, autrement dit de démesure. Mais seule cette déesse est à même de juger les êtres, voilà pourquoi on ne comprend pas toujours ces sentences. D'ailleurs, ce mot némésis vient du verbe grec némein, qui signifie répartir équitablement, distribuer. Alors pourquoi le directeur du tour est-il positif et pas le premier ministre? Alors il y a le respect des gestes barrières, bien sûr, mais au-delà il y a une part de contingence, traduite dans le roman de Roth par un dialogue entre le docteur Steinberg ultra-rationaliste et le personnage central du roman Bucky Cantor, sensible aux questionnements métaphysiques soulevés par la maladie, comme s'il était plus facile au final de boucler le tour de France que de faire le tour du Covid.